Nous sommes aujourd'hui avec Michel Rocard, ancien Premier ministre, président de la conférence d'experts sur la contribution climat-énergie, la fameuse taxe carbone que l'on vient d'évoquer, et depuis mars dernier, ambassadeur des pôles, donc en charge des négociations internationales sur les pôles Arctique et Antarctique. Un dossier que vous suivez depuis des années, Michel Rocard, puisque vous avez été à l'origine en 91, du protocole de Madrid, protocole international interdisant l'exploitation des ressources du continent antarctique. Michel Rocard, quelles sont les dispositions internationales existantes aujourd'hui sur les pôles et en substance, que garantissent-elles ?
Les deux situations sont radicalement différentes. D'abord, les pôles, c'est pas pareil. L'Antarctique, c'est un continent recouvert de glace pour une épaisseur de pas loin de 4 km, 4000 mètres, c'est formidable, il n'y a rien autour, et les plus proches pays avec des commandements politiques, des citoyens, des gens qui votent, ou qui votent pas d'ailleurs, mais enfin des habitants, ils sont à plus de 4000 km. Il n'y a pas un habitant, il n'y a pas un électeur en Antarctique, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il était relativement commode de sauver les meubles. L'Arctique, c'est le contraire, c'est uniquement un océan. La glace qui flotte sur le pôle Nord est une glace salée. C'est de l'eau qui a gelé. Et il y a 5 États riverains qui s'approchent à peine 1000 km du pôle Nord. Le Svalbard, l'archipel qu'en France on appelle Spitzberg par erreur, c'est le nom d'une de ces 9 îles. Mais tout l'archipel s'appelle le Svalbard. Il est à 945 km du pôle, en limite extrême. Et ses voisins, ils sont pas petits, puisqu'il s'agit de la Russie, des États-Unis, du Canada, du Groenland, c'est-à-dire encore du Danemark, mais le Groenland est en train de conquérir son indépendance, et il va peut-être l'avoir assez bientôt. Il ne reste plus que la politique étrangère. Pour le reste, il y a une autonomie interne renforcée, comme ils disent. Et puis enfin, la Norvège. Et ces 5 pays, jusqu'à présent, tenaient beaucoup à régler eux-mêmes leurs affaires de voisinage dans l'Arctique. Les situations sont donc radicalement différentes. Quelques mots sur l'Antarctique. En 1959, les deux présidents, Khrushchev et Eisenhower, administraient des pays en pleine guerre froide et en pleine politique de surarmement nucléaire pour combattre l'autre. Et pourtant, ces deux hommes étaient plutôt des hommes pacifiques et des hommes de paix. Sur une on ne sait pas bien le détail, je ne sais pas comment c'est né. Enfin, ils se sont rencontrés quelque part. Et ils se sont mutuellement proposés d'écarter l'Antarctique des zones de combat. D'où le traité qui doit être de février 1959, dit traité de l'Antarctique, qui enregistre toutes les réclamations territoriales. Il y en avait 7. Il n'y avait ni les Russes ni les Américains d'ailleurs, mais il y avait 3-4 Européens, France, Grande-Bretagne, Italie, me semble, et puis Chili, Norvège, des nations à forte expérience polaire. On a enregistré les revendications territoriales, on les a cartographiées, et le traité dit qu'il les reconnaît, qu'il assure leur validité, qu'il en interdit la matérialisation, pas de barbelés, pas de guichets, pas de passeports, et qu'il exige que la recherche scientifique soit faite en grande coopération internationale. Et puis c'est tout. Mais c'est déjà énorme, puisque c'est la clé de la suite. Après ça, du coup, l'habitude s'est prise quand même de travailler ensemble sur l'Antarctique. Et en 1972, premier protocole complémentaire au traité pour protéger les phoques. Rien que les phoques. Deuxième protocole en 1978 pour protéger la faune et la flore marine. Marine, seulement ça. Donc pas grand-chose. Pendant ce temps-là, les Néo-Zélandais s'inquiètent et s'énervent. Ils sont les premiers avoir repéré les travaux scientifiques qui parlent du trou de l'ozone, qui parlent éventuellement d'incidence de l'activité humaine sur la température climatique, sur le réchauffement. Ils ont la panique et ils lancent une grande négociation pour que si jamais on doit forer du pétrole en Antarctique, on le fasse dans des conditions respectueuses de l'environnement. D'où un projet de troisième protocole de l'Antarctique qui s'appelait protocole sur les exploitations minéralogiques en Antarctique. On le signe en juin 1988. Je suis déjà Premier ministre, j'en sais rien, la signature est automatique, la France a bossé, un fonctionnaire charlu, paraf, mais on l'a pas ratifié. Je rencontre un peu par hasard mon ami Robert Hawke, Premier ministre d'Australie à l'époque. Il était devenu mon ami à cause des sentiments qu'il avait exprimés sur ce qu'on venait de faire en Nouvelle-Calédonie. Et puis on s'était connus avant, pour d'autres raisons. Et puis c'est un copain du club de l'International Social Démocrate.
Et donc, c'est là où vous alors, prenez des dispositions.
Il me dit, mon Parlement ne ratifiera jamais un accord qui prévoit qu'on va exploiter du pétrole en Antarctique, c'est trop dangereux. Et je lui dis, chez nous, la ratification ferait moins de problèmes, mais vous avez raison sur le fond. Et nous annonçons conjointement, la France et l'Australie, deux premiers ministres, que nous n'enverrons pas la convention à cette ratification et que nous demandons la réouverture immédiate de grandes négociations pour un troisième protocole. Et elles ont réussi. C'est un coup de bluff politique inouï. Et si j'avais à l'époque su tout ce que je sais des intérêts des nations polaires et de comment elles gèrent les affaires, je n'aurais probablement pas osé ce coup-là. Mais la vérité, c'est qu'il a réussi.
Le revers de l'histoire.
Le troisième protocole, vous y avez fait allusion, il est signé à Madrid en 1991 et il déclare l'Antarctique réserve de science, patrimoine de l'humanité, terre interdite à toute activité autre que le tourisme et la recherche scientifique, mais interdite à toute activité productrice de calories et notamment économique ou pétrolière, et le tout pour 50 ans renouvelable par tacite reconduction. Formidable. Toute la communauté scientifique a bondi de surprise et de joie. C'est un très beau coup. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est revenu me chercher pour m'en remettre dans le coup maintenant. En Arctique, 6000 ans d'histoire à peu près explorée par nos historiens, 5990 ans qui ne se passe rien, tout est gelé, on ne peut rien faire, on ne bouge pas.
Mais ça fond.
Et bon, c'est une terre de poètes, de chercheurs, de pêcheurs de baleines et de scientifiques. Point. Le réchauffement climatique change absolument tout, dans tous les domaines. D'abord, on a pu explorer un peu et se faire des idées, c'est plein de pétrole.
Ça aiguise les
appétits. Et de gaz. Il y a un deuxième Moyen-Orient sous l'Arctique. C'est immense. Et il y a sous l'Arctique des réserves de pétrole et de gaz, de quoi doubler tous les gaz à effet de serre émis par la planète en peu d'années si on le met en service.
Sans parler du fait que quand la glace fond, ça émet aussi du méthane.
Alors,
et ça peut aussi
quand la glace fond, il se passe des choses, les océans réagissent moins bien. Puis il n'y a pas que la glace qui fond, il y a le permafrost, c'est-à-dire le sol complètement gelé à côté. Quand le permafrost gèle, toutes les maisons s'effondrent, on ne peut plus faire de route, on ne peut plus forer de pétrole, on ne peut plus rien faire, ni même chasser d'ailleurs, et ça dégage du méthane stocké, deuxième gaz à effet de serre, tout ça est affreux. Alors le réchauffement va avoir comme résultat que le tourisme va se développer beaucoup, que probablement dans quelques années, toutes les flottes commerciales voudront faire Europe-Chine, Europe-Japon, Europe-Californie, en passant par le nord, le long de la Sibérie, ou entre les îles canadiennes, plutôt que par Suez ou Panama, économie plus de 5000 kilomètres, on va y aller. Et puis, le réchauffement climatique chasse des milliards de poissons, il est en train, ça commence, de l'Atlantique et du Pacifique, pour les pousser vers l'océan Arctique, où ils ont des eaux plus fraîches. Donc on va aussi aller pêcher. Et il n'y a pas un phare, il n'y a pas une balise, il y a à peine deux cartes, il n'y a pas de remorqueur de secours, on ne sait pas traiter les accidents. En plus, cette mer, c'est la mer préférée des sous-marins nucléaires danseurs d'engins pour se canonner éventuellement l'un l'autre, puisque l'Arctique, elle a deux riverains qui font face à face, les Russes et les Américains.
Alors justement, je vous propose d'en parler parce que, évidemment, cet Arctique aiguise tous les appétits, on voit bien toutes les potentialités. Alors, en Russie, le Kremlin prévoit que d'ici à 2020, cette région sera devenue probablement la base stratégique du pays pour tout ce qui est des ressources naturelles, hydrocarbures, eau, matières premières. Elle a déjà planté un drapeau au fond de l'océan Arctique pour réaffirmer sa territorialité dans la zone. C'était en 2007 et Pavel Selezniov faisait partie de l'expédition. Notre correspondant à Moscou, Thierry Parizeau, l'a rencontré.
L'Arctique, Pavel Selezniov est tombé dedans quand il était tout petit. Il est né au-delà du cercle polaire, en Yakoutie. Staline y avait déporté ses parents et le petit Pavel est donc né là-bas en 1948. Il ne se souvient pas avoir eu froid. Il se souvient juste être tombé amoureux de la glace et de la neige. À 61 ans aujourd'hui, il vient de fêter sa 43e expédition polaire. La prochaine est déjà prévue pour Noël.
C'est difficile de décrire l'Arctique. Ça ne ressemble à rien de connu. C'est très beau. On peut dire que c'est un désert blanc. On peut dire que c'est très pur et très silencieux. Il y a tout là-bas. Les nuits polaires, les jours polaires, et puis on voit aussi les aurores boréales.
Il y a tout ça, mais il y a aussi autre chose.
On trouve du gaz et du pétrole, beaucoup de réserves inexploitées. Et pas seulement dans l'Arctique russe, tous les États riverains de l'Arctique devraient regarder ce qu'il y a autour de leurs frontières. Parce que des hydrocarbures, là-haut, il y en a un peu partout.
Tous les États riverains y regardent déjà de très près. Et en Russie, c'est désormais une priorité stratégique, utiliser l'Arctique comme une base de ressources naturelles, notamment pour assurer les besoins du pays en hydrocarbures.
Staline, en son temps, a tracé au crayon rouge un triangle sur une carte de l'Arctique et il a dit « ça, c'est le secteur soviétique ».
C'était dans les années 30. Depuis, Moscou a ratifié la convention de l'ONU sur le droit de la mer et en vertu de ce texte, la Russie possède le long de ses côtes une zone économique exclusive d'environ 350 km, mais maintenant, elle cherche à établir sa souveraineté bien au-delà. Elle doit pour cela démontrer que les terres revendiquées sont la prolongation de son plateau continental. Toutes ces dernières expéditions polaires ont donc servi à étayer scientifiquement ces demandes, et le dossier est maintenant étudié par une commission spéciale des Nations Unies.
La Russie ne réclame pas tout l'Arctique. Elle demande seulement des territoires proches de ses frontières continentales. Et il y a d'autres pays comme le Canada, le Danemark, la Norvège qui ont leurs propres revendications. Ils font les mêmes calculs que nous pour essayer d'élargir leurs frontières.
Dans le cadre de sa stratégie arctique, adoptée l'an dernier, le Kremlin veut déployer des unités de l'armée et des services de renseignement dans la zone. Faut-il comprendre que la Russie s'apprête à faire la guerre pour l'Arctique ? Pavel Selesnyov n'y croit pas.
Non, il ne faut surtout pas y voir une menace de conflit. Il s'agit tout simplement d'une réorganisation de l'appareil de défense, d'une réorientation. Et ça, ça se fait dans tous les pays du monde. Tout peut se régler tranquillement autour d'une table de négociation. On s'assied et on discute.
Et Pavel l'optimiste parle alors des ours polaires qui n'ont jamais eu besoin de visa. Il leur suffit d'une nuit pour traverser le détroit de Bering, pour aller de l'Alaska aux États-Unis, à la Tchoukotka en Russie.
Michel Rocard, on entend bien à travers cette interview l'appétit des Russes pour cette région. Et c'est vrai que l'Arctique va être vraiment un Eldorado pour de nombreux pays. En tout cas, il y a beaucoup d'attentes.
Absolument. Et il n'y a pas qu'un appétit des Russes, tous les autres. D'abord, un petit détail. Les Russes demandent l'extension de leur zone économique exclusive à 350 000 nautiques, c'est-à-dire à près de 680 km. Ce qui représente, ce qu'ils demandent, c'est 33% de la surface de l'Arctique, pôle Nord compris. Mm. Et le fameux drapeau en titane, c'est au pôle Nord qu'il a été placé.
Oui, absolument, c'est au pôle Nord.
À 4200 mètres sous l'eau. Mm. C'est extraordinaire.
Alors, est-ce que vous pensez que les Russes ont des chances d'obtenir cette reconnaissance territoriale ?
Le comité spécialisé des Nations Unies qui s'occupe de ça, qui a été créé par la Convention sur le droit de la mer de 1982, a reçu compétence pour instruire ces demandes. Le seul critère qu'il est obligé de regarder, et il a interdiction de prendre d'autres critères, c'est la continuité géologique. Ça l'a amené déjà à dire oui pour les 9 dixièmes à la première revendication territoriale qu'il a regardée pour élargir la zone économique exclusive et qui était à la Norvège. Et il a, dans le cas de la Norvège, étendu pour 330 km carrés, 1000 km carrés, c'est pas rien, c'est les deux tiers de la surface de la France, en dessinant une zone controversée entre les Russes et les Norvégiens et en disant on veut pas arbitrer, mettez-vous d'accord avec les Russes. Vous voyez,
c'est tendu.
L'éléphant négociant avec le petit chat, enfin bon, difficile. La demande russe est sous instruction. Ils viennent de le dire. La demande russe a fait l'objet d'une demande d'information complémentaire, la preuve géologique, qu'une chaîne de montagnes qui s'appelle la dorsale Lomonosov, c'est pour moi qui ai inventé les noms, et qui parcourt tout l'Arctique. Les Russes disent c'est la continuité de chez nous. Ouais. Le comité n'en est pas sûr. Alors c'est pour ça qu'ils font de la géologie à outrance pour avoir réponse. Ça paraît pas évident, ils peuvent pas avoir une réponse en totalité. Mais il y a une demande canadienne qui va être déposée dans un an ou deux, et une demande danoise pour le Groenland qui va être déposée aussi. Le cas bizarre, qui n'a pas été cité par votre interviewé, là, c'est les États-Unis. Avec l'Alaska. L'Alaska monte plus proche du pôle Nord que les dernières îles canadiennes. Donc on est très polaire là. Et dans ce coin-là, il y a aussi beaucoup de pétrole. Les États-Unis n'ont pas ratifié la Convention sur le droit de la mer, donc ils ne sont pas dans la procédure qui leur permettrait de présenter des revendications. Du coup, fureur, colère américaine, ils sont en train de préparer la ratification, leur revendication est prête. Si toutes reçoivent satisfaction, il restera en eau libre, qui ne sont pas devenus propriété d'un État riverain, 9 à 10% à peine de la surface actuelle de l'océan.
C'est-à-dire extrêmement peu. Alors vous parliez du Canada, c'est vrai que le gouvernement conservateur de Stephen Harper a fait du contrôle de l'Arctique un de ses chevaux de bataille, et depuis son accession au pouvoir en 2006, il multiplie lui aussi les démarches pour affirmer la souveraineté du Canada sur ses territoires nordiques ainsi que sur les eaux qui les jouxtent. Alors Ottawa s'est d'ailleurs récemment doté d'une nouvelle stratégie pour le Nord, un plan qui définit les grands axes que le Canada entend suivre alors qu'il veut accélérer les efforts en matière de développement de l'Arctique au cours des prochaines années. Les explications de notre correspondante au Canada, Anouk Desgroseillers.
L'Arctique canadien, c'est avant tout des territoires immenses, presque vierges, au nord du 60e parallèle. Un peu plus de 100 000 habitants pour 3,5 millions de kilomètres carrés, essentiellement des autochtones et des Inuits qui vivent pour la plupart dans des communautés difficilement accessibles. Traditionnellement, l'Arctique n'a suscité que peu d'attention réelle de la part des élus canadiens, mais aujourd'hui, la donne a changé. Le réchauffement climatique rend les eaux de l'Arctique de plus en plus navigables et l'exploitation des riches sols et fonds marins de la région relève dorénavant du domaine du possible. Le Canada entend bien tirer profit de cette nouvelle manne et veut avant tout affirmer son contrôle militaire de la région. À coût de milliards d'euros, Ottawa prévoit acheter de nouveaux navires militaires et un brise-glace polaire. Un nouveau port en eau profonde sera aussi construit pour permettre aux forces canadiennes de patrouiller les eaux du passage du Nord-Ouest revendiquées par Ottawa. Cette rhétorique militaire n'est pas nouvelle, mais cette fois, le gouvernement conservateur y ajoute un volet économique. La stratégie d'Ottawa pour le Nord mise notamment sur l'exploitation minière et les grands projets, comme celui du futur gazoduc de la vallée du fleuve Mackenzie. Une agence exclusivement dédiée au développement économique du Nord est aussi mise sur pied. Le directeur de la planification et des politiques du nouvel organisme, Daniel Leclerc.
Le territoire est immense, il est vaste, donc un niveau d'infrastructure doit être développé. Par la suite, évidemment, il n'y a pas beaucoup de personnes qui y vivent, donc la main-d'œuvre n'est pas aussi disponible et n'est pas nécessairement pour l'instant entraînée pour rencontrer les nouveaux défis comme tels reliés à l'exploitation minière ou reliés à n'importe quel genre d'entreprise. Donc il va y avoir un volet de vraiment aider les communautés à se développer sur ces aspects-là. Puis l'autre défi, je dirais, c'est le point de vue communication, le point de vue transport. Donc, c'est vraiment de travailler en partenariat avec les communautés pour voir qu'est-ce qui peut être fait dans un temps qui est raisonnable pour pouvoir les aider.
Plusieurs experts notent cependant que les millions attribués pour l'instant au développement social et économique de l'Arctique sont sans commune mesure avec les investissements réservés au domaine militaire et que cela ne suffira pas à la tâche. La présidente de la recherche à l'Institut de recherche en politique publique de Montréal, France Saint-Hilaire.
On sait qu'il y a d'énormes problèmes en termes des niveaux d'éducation, le logement, les taux de suicide qui sont vraiment catastrophiques. En tant que société, les peuples autochtones, les Inuits en particulier, sont un peu en état de crise et on doit voir aux conditions de vie des familles, en particulier des enfants dans les régions du Nord. Donc, il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là.
Dans sa nouvelle stratégie, le Canada promet aussi d'améliorer la gouvernance des territoires et de préserver les écosystèmes de l'Arctique en créant par exemple davantage de zones protégées. Ces deux domaines ne reçoivent cependant qu'une infime portion des sommes allouées au Nord par Ottawa. Pour certains, la publication de cette stratégie à l'aube d'une éventuelle élection fédérale relève davantage de visées électorales que d'une réelle volonté politique d'agir. Le thème de l'Arctique a en effet toujours été un élément rassembleur pour les Canadiens. N'empêche que c'est la première fois qu'Ottawa rassemble dans un seul document une ébauche des différents axes à suivre pour le développement de la région.
Alors on voit bien, tout le monde se précipite sur ce pôle. Même le président Obama a manifesté son intérêt, alors que durant sa campagne, il était plutôt réservé face à cette nouvelle conquête du Nord. Mais on voit bien que tout ça va avoir des conséquences tout à fait extraordinaires sur les populations et puis sur les écosystèmes de cette région.
Et sur le monde entier. Si on n'a pas parlé du Groenland, le Groenland c'est 3 ou 4 fois la France en surface, 2 ou 3 millions de kilomètres carrés, avec 1,5 km de glace d'épais dessus, et là c'est de l'eau douce qui a fondu, c'est pas la glace polaire, c'est la calotte polaire, même statut que l'Antarctique. Si cette calotte polaire du Groenland fond complètement, le niveau des océans augmente de 7 mètres. Disparition du Bangladesh, du Pakistan, du tiers du Pakistan, des Pays-Bas, des Maldives, etc. etc. Restons sur le Canada 2 minutes. Le Canada est un peu malheureux dans cette affaire. Il a beaucoup de côtes et il est le passage le plus, je dirais pas nécessairement le plus commode. Le plus commode, c'est peut-être celui de la Sibérie. Parce qu'il n'y a pas d'île. Mais c'est un passage facile, quand la glace a fondu.
Qui pourrait faire économiser, on dit, voilà. 4000 kilomètres à peu près.
Oui, c'est ça. Mais ce que disent les Canadiens, c'est que c'est leur souveraineté et qu'ils veulent rester absolument maîtres de la sécurité, c'est-à-dire du traitement des accidents, des secours et de l'autorisation de passage. Et c'est bizarre. De toute l'Antarctique, dans 10-15 ans, les flottes commerciales vont y aller. Avant ça, les flottes de pêche vont y aller. Pas une carte, pas un phare, pas une balise, pas un marqueur de secours, des probabilités d'accident, surtout si on fait de la pêche braconnée, parce qu'on fait toujours de la pêche braconnée quand c'est pas protégé. Mais il y a un club. Le Conseil Arctique réunit les 5 États riverains plus 3 autres États ou territoires placés dans l'Arctique, mais qui ne sont pas riverains, et qui sont la Suède, la Finlande et bien sûr l'Islande. Ce conseil rêve de gérer les affaires entre soi, et pourtant il n'a pas reçu le pouvoir d'édicter des règles contraignantes. Il ne faut pas briser ce conseil, c'est l'endroit au monde où la coopération de la Russie avec des pays différents se fait le mieux. Et le Canada, d'ailleurs, il dit qu'ils ont une stratégie arctique, ils sont réveillés plus tard. Ceux qui sont partis de plus tôt, qui travaillent énormément, c'est les Russes. Ils ont 12 de brise-glace très puissants à moteur nucléaire. Les Canadiens, ils ont 2 brise-glace et les Américains construisent leur premier, je crois, me souvenir, ou le deuxième.
Alors, quelles sont les solutions, du coup, pour protéger cet Arctique?
Le Parlement européen a voté, il y a bientôt 3/4 d'année, une résolution qui demande un traité à l'image de celui d'Antarctique. C'était moi l'auteur. J'ai compris maintenant que c'est pas possible, les pays riverains n'en veulent pas. Il n'est pas possible au reste du monde, il n'est pas souhaitable que le reste du monde prétende casser la bonne entente qui fonctionne dans le Conseil Arctique. Donc ce qu'il faut que nous arrivions à faire, c'est gagner la confiance des États riverains pour régler les problèmes un par un au fur et à mesure qu'ils se posent, en les prenant dans l'ordre où les riverains, quels que soient leurs intérêts locaux, sont bien d'accord qu'on n'échappe pas. Nous commençons par la pêche. Il y a 2 jours, la France vient d'envoyer au Conseil, à l'Union européenne, un projet qui pourrait être un projet de résolution commune déposé par l'Europe à l'Assemblée générale des Nations unies, qui siège en ce moment et qui a en préparation une résolution sur la pêche, pour demander qu'il y ait moratoire, c'est-à-dire interdiction de pêche dans toutes les zones nouvellement découvertes par la glace, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas quelles espèces de poissons seraient à protéger, empêcher l'arrivée d'abord d'une pêche braconnée. On verra bien comment. C'est notre première initiative. Nous l'avons prise parce que nous pensons rencontrer là l'accord des riverains. Et d'ailleurs, 2 riverains, canadiens et surtout américains, ont la même idée. Il nous manque encore l'avis Groenland et Danemark, mais il s'agit de zones nouvelles qui n'étaient pas pêchables il y a encore 2 ou 3 ans.
Okay. C'est assez vertigineux, en fait, d'imaginer qu'il y a cette zone immense.
Dans 20 ans, il est raisonnable de penser qu'un tiers du commerce mondial passera par là. Et il n'y a pas un remorqueur pour traiter des secours. Et en plus, il y a secret défense pour aller secourir les accidents.
Avec des conséquences écologiques effroyables. On évoque des bouleversements.
Oui, mais le sauvetage écologique de l'Arctique, il dépend de la taxe carbone. L'Arctique
est
massacré. Mais oui, mais c'est vrai. L'Arctique est massacré par le reste du monde. Par du gaz à effet de serre qui vient d'ailleurs. Ce que nous pouvons faire en Arctique, à propos de l'Arctique, c'est assurer la bonne gouvernance de ce changement qui fait qu'en 5 ans, l'Arctique est devenu fréquentable, utile, potentiellement commercial, pêcheuse, touriste et tout.
Est-ce que dans le cadre des accords de Copenhague, il va y avoir des nouvelles règles pour les régions arctiques ?
Ce n'est pas sûr, c'est même pas très urgent. Ce qu'il faut espérer, c'est que dans le cadre de Copenhague, il y aura des nouvelles règles pour l'émission des gaz à effet de serre.
Est-ce que vous y croyez ?
J'ai rien à faire du mot de croire en politique. On est un général ou un colonel au combat, il mène le combat puis il commente après. C'est un peu notre situation. Il faut qu'on y arrive. Et c'est tout de même relativement probable. Mais c'est vrai qu'à 15 jours de la conférence, ou 3 semaines, je ne sais plus, l'accord n'est pas encore fait. Et donc il y a haut risque. Il y a très haut risque. Mais l'objet de Copenhague, c'est Kyoto 2. C'est donc renouveler le combat planétaire pour diminuer le réchauffement climatique, ce qui sauverait l'Arctique et l'Antarctique au passage, mais pas à propos de chez eux, à propos de chez nous. Chez eux, il faut assurer au moins la gouvernance. Et puis, il y a les sous-problèmes locaux, vous en avez cité deux. Les ours blancs sont menacés de disparition. Et le mode de vie des peuples inuits, ils ne sont que 300 000 en tout, surtout. Tout le circuit, sont aussi menacés d'un changement profond. C'est tout ça qu'il faut faire. Juste après la pêche, il faudra, je vais m'attaquer au problème de la sécurité maritime.
Mais vous reviendrez nous en parler alors. Merci Michel Rocard. C'est pas du vent, c'est fini pour aujourd'hui. Lundi, nous partirons en Australie visiter l'une des plus grandes mines d'uranium du monde.
Bon week-end à tous et à lundi, même planète, même heure.